Jean-Marie Félix.
Entre les lignes, je reçois aujourd'hui Yves Robert, auteur d'un premier roman récemment paru aux éditions D'autre part, La ligne obscure. Bonjour, soyez les bienvenus. Il existe dans le canton de Neuchâtel l'Association pour l'aide à la création littéraire. Chaque année, cette association propose à un écrivain neuchâtelois ou vivant sur le territoire cantonal d'écrire un texte sur le thème du temps en résonance avec un lieu propre à la région, ce qu'on appelle un lieu vernaculaire. Depuis 2001, une douzaine d'auteurs se sont prêtés à l'exercice. Parmi eux, la regrettée Anne-Lise Grobetti. Il y a eu aussi Odile Cournu, Thomas Sandeau, Claude Darbollet. Et cette année, la proposition a été faite à Yves Robert, un écrivain qui s'est distingué jusque-là par son écriture théâtrale, dramatique. Yves Robert vit à La Chaux-de-Fonds, c'est là qu'il est né il y a près d'un demi-siècle, il y a carrément un demi-siècle même, il a 50 ans. C'est là qu'il a fondé la Compagnie Fantôme, structure théâtrale avec laquelle il a créé les nombreux textes dont il est l'auteur. Et avant cela, Yves Robert a travaillé dans le milieu du cinéma. Il a réalisé plusieurs courts-métrages. Le cinéma est certes constitué de profondeur de champ, mais surtout de lumière qui passe à travers la pellicule. La lumière et les zones d'ombre, c'est précisément ce qui intéresse mon invité. Outre son travail d'écriture et de mise en scène, Yves Robert réalise des éclairages pour différents spectacles. Le texte dont nous parlerons aujourd'hui témoigne bien de cet intérêt pour les contrastes en clair-obscur. Il est intitulé « La ligne obscure ». À travers une écriture portée par un puissant souffle poétique, lyrique même, on y suit la lente déstructuration d'un homme condamné par la maladie. Cet homme qui appartenait en son temps à l'élite financière se dépouille peu à peu, se dépouille jusqu'à son identité et devient un marcheur solitaire doté d'une terrible lucidité. Son errance le conduira inéluctablement vers la part première qui est en lui, c'est-à-dire la part animale. Un texte donc riche, parfois obscur, c'est vrai, qui possède plusieurs strates narratives, dont la qualité littéraire méritait bien une invitation entre les lignes. Bonjour Yves Robert.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous accueillir pour la première fois dans nos interlignes. Dites-nous d'abord, pourquoi avoir abordé la réalité du théâtre par la technique de l'éclairage? Est-ce que cela a à voir avec votre intérêt majeur pour le cinéma?
Non, le cinéma est une parenthèse, je dirais, que j'ai eu sur l'âge de 18 à 22 ou 23 ou 24 ans. C'est un petit moment où j'ai vécu des choses étonnante, marrante, où j'ai appris plein de choses, etc. Mais en fait, c'était pour moi avant tout le marchepied vers le travail au niveau du théâtre, c'est-à-dire la découverte du théâtre, de son fonctionnement. Ça s'est fait, je dirais, un petit peu par hasard, un petit peu par héritage de tout le travail que le Théâtre Populaire Roman avait mené sur La Chaux-de-Fonds, notamment par un travail dans les écoles, par un travail de rencontre du public, en rencontre aussi avec les compagnies de théâtre amateur.
Vous avez travaillé avec Charles Joris en son temps?
Je n'ai pas travaillé avec Charles Joris en son temps. J'étais spectateur, j'étais un élève dans les écoles et j'ai pu découvrir les spectacles du TPR par l'intermédiaire des représentations scolaires. Donc, pour revenir à la question, le cinéma, c'est un point de départ qui m'amène vers une réflexion sur la lumière, sur la manière peut-être de raconter des histoires, etc. Et j'irai naturellement travailler dans la technique de spectacle, particulièrement l'éclairage. Je crois qu'on peut dire que l'envie de raconter une histoire à ce moment-là, et je dirais jusqu'il y a une dizaine d'années, était l'envie de connaître les métiers du théâtre, c'est-à-dire de comprendre comment se fabrique une technique, de comprendre comment se fabrique une scénographie, de comprendre la manière dont on accueille un public, la manière dont on programme un théâtre, la manière dont on gère le graphisme d'un théâtre, la manière dont la communication se met en place autour de la fabrication théâtrale. La position de technicien est une position extraordinaire sur la préparation d'un spectacle ou sur la création d'un spectacle parce qu'on est en permanence sur le lieu de création comme observateur. Mmh. On regarde la manière dont une pièce s'élabore, comment elle se met en place. Donc ça a été pour moi une magnifique approche, une magnifique possibilité d'approche de ce qu'est la manière de raconter une histoire.
Vous avez donc commencé par écrire avec de la lumière. Hein, l'éclairage, finalement, dans un spectacle relève de la scénographie, de l'écriture de scène. Comment en êtes-vous, vous-même, à écrire des textes pour le théâtre? Comment en êtes-vous venu aux mots?
C'est une suite logique. La suite logique est cette envie d'apprendre artisanalement le théâtre, il suffit de le dire, effectivement, d'apprendre cet artisanat, comprendre ce fonctionnement, et à partir du moment où ce fonctionnement est compris et intégré, c'est la sensation de pouvoir exprimer autre chose que de la technique ou de l'impression. L'impression que l'on donne au travers de la technique, c'est-à-dire un support que l'on donne à la dramaturgie, etc. Donc tout d'un coup, passer dans le monde de l'histoire, dans le monde du récit. Ce qui m'intéresse profondément, c'était au travers de cet apprentissage, comprendre le fonctionnement d'un art, et cet art consiste à simplement raconter une histoire.
Écrire, c'est donc mettre en lumière, on y revient.
Écrire, mettre en lumière, révéler, aussi, faire mémoire.
Peut-être aussi révéler les zones d'ombre.
Exactement. Hein? Je crois que la question de la lumière, on tourne toujours autour de la lumière, hein, c'est amusant. La question de la lumière n'existe pas sans zone d'ombre. Hein? Dans un récit, je crois qu'un récit a de la peine à trouver son ampleur sans les strates cachées, sans les mémoires cachées, sans ces zones un peu ténébreuses. Ça ne veut pas dire être dans l'obscurité tout le temps. Justement, au contraire, mettre l'obscurité, c'est permettre des petits éclats de lumière, trouver un peu d'humanité. Ouais, c'est ça qui m'intéresse.
À propos d'obscurité, peut-être même d'obscurantisme, Yves Robert, vous êtes l'auteur d'un texte intitulé « La femme qui tenait un homme en laisse ». Alors ça, c'est un texte qui fait clairement référence à une photographie qui a fait le tour du monde, c'est-à-dire une femme soldat américaine, une GI, qui a humilié un prisonnier irakien dans la fameuse, trop célèbre prison d'Abu Ghraib. Alors ça, ce sont des mots, un éclairage posé sur une image insoutenable.
Oui, peut-être préciser une chose. Dans la notion de l'éclairage, il y a la notion de révéler. Mais je crois que la femme qui tenait un homme en laisse correspond aussi à cette envie-là, révéler mais sans juger. Mm-hmm. C'est-à-dire exposer l'action. Si je fais juste une petite parenthèse sur la femme qui tenait un homme en laisse, le point de départ de ce texte, qui a été pour moi ce que j'appelle mentalement dans mon imaginaire un texte de combat, c'est-à-dire quelque chose que j'ai écrit très rapidement sur une impulsion, sur une révolte. Le point de départ, c'est la tranquillité des vacances dans un jardin au sud de la France où je lis, je sais plus, Le Monde ou Libération. Et il se trouve qu'il y a une photo de Lindy England et que sur cette photo, on voit une jeune femme visiblement enceinte qui est dans une posture, je dirais, dans une un aspect paisible de maternité ou de début de maternité. Donc il y a une espèce de chaleur de tranquillité qui se dégage de cette photo. Mais que nous raconte l'article? Il nous raconte la torture dans la prison d'Abu Ghraib. Donc moi, l'enjeu, ce qui me donne comme point de départ, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on peut être la représentation photographique de la douceur de la maternité et être en même temps cette personne qui va commettre des actes immondes?
C'est donc une histoire de contraste, on y revient toujours à la photographie.
Vous me prenez.
Les mots de la bouche, pardon.
C'est trouver ce contraste et essayer de l'exposer, mais toujours en essayant d'enlever deux choses. C'est d'enlever le jugement. Donc c'est remettre ce personnage-là dans le contexte historique de l'Amérique sur une centaine d'années et voir comment une histoire va façonner la vie d'une personne. Donc c'est remettre ce contexte-là, sans juger, et surtout essayer d'éviter de mettre de la morale, parce que la morale est une chose qui est propre à chacun. On a chacun notre morale ou notre éthique en fonction de nos parcours et de nos éducations. Donc c'est un texte, et je crois que dans La ligne obscure, on est dans quelque chose de similaire, où il y a une envie de retirer la morale, c'est-à-dire de retirer le jugement et la morale, et simplement d'exposer la vie d'un homme dans le cas de La ligne obscure, la vie d'une femme dans le cas de La femme qui tenait un homme en laisse.
Alors on va resserrer le faisceau, si vous le voulez bien, Yves Robert, sur cette Ligne obscure qui a paru récemment aux éditions D'autre part. Ce texte, je l'ai dit, s'inscrit dans une collection intitulée Lieux et temps. Les écrivains neuchâtelois y sont invités à écrire sur le thème du temps, en résonance avec un lieu vernaculaire, c'est-à-dire avec un lieu proche, propre à la région de Neuchâtel. Alors lorsque l'Association pour l'aide à la création littéraire vous a proposé de vous essayer à cet exercice, comment avez-vous réagi? Quel a été votre souhait et peut-être votre crainte?
Je crois que dans un premier temps, c'était une très très grande surprise, parce que ça fait 10 ans que j'écris pour le théâtre, et j'imaginais pas écrire un roman maintenant. Quelque part dans mon envie mentale, toujours d'approche artisanale des choses et de construction, peut-être d'un parcours artistique, je m'étais mis dans la tête que j'essayerais d'écrire un roman quand j'aurai 60 ans. Et quand j'aurai vraiment le temps.
Vous avez donc gagné 10 ans.
Donc j'ai pris 10 ans d'avance et je le regrette pas. Enfin, c'est quelque chose. J'ai vécu cette expérience, je dirais, avec à la fois du plaisir et à la fois quelque chose qui est de l'ordre d'un bouleversement, et vraisemblablement, je dirais, d'un renforcement de mon apprentissage ou un renforcement de mon artisanat. Pour revenir à ce point de départ, donc je suis dans un premier temps sur une surprise qui est forte, et une peur, parce que écrire un roman, ça me paraît quelque chose d'astreignant, de long, de compliqué. C'est une montagne à escalader. Il se trouve que j'ai des spectacles en cours de préparation, j'ai une mise en scène qui est gentiment en train de s'écrire. Voilà, j'ai plein d'obligations qui, au niveau du temps, m'empêchent d'être serein par rapport à une proposition de ce type-là. Donc mon premier réflexe, c'était de demander un délai, de dire mais laissez-moi 15 jours, je veux réfléchir. Et j'ai profité de ces 15 jours pour écrire à peu près 2 chapitres, dont le chapitre de conclusion, puisque j'ai une habitude peut-être étrange, mais je suis quelqu'un qui commence toujours par la fin. J'écris toujours la fin d'une pièce de théâtre, ou là en l'occurrence la fin de ce roman. Comme ça, je sais techniquement où je dois aller. Ouais. Je sais non pas quel sera mon parcours, mais où mon parcours me mènera. Et j'ai écrit ce chapitre de fin plus un chapitre intermédiaire. Et en voyant où j'en étais, en relisant, en réfléchissant, en me disant mais là je pense que je tiens une histoire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est l'envie d'écrire une histoire, l'envie d'écrire un récit. J'ai envie de promener les gens dans une série de successions d'actions où le lecteur ou le spectateur au théâtre peut suivre tranquillement un fil qui l'amène de A à Z.
Tranquillement, c'est vous qui le dites. Hein.
Pour moi, c'est tranquille.
En tant que lecteur, c'est pas tranquille. C'est un témoignage. En tout cas, pour La ligne obscure.
Donc de mener son chemin à partir du moment où j'avais ces deux chapitres, je pense que je disposais des éléments qui me permettaient de dire ok, je peux accepter cette proposition et je peux la faire.
La contrainte, c'est quelque chose qui peut faire peur à un auteur?
Dans ce cas-là, non, parce que c'est une contrainte, mais qui est tellement large. Ouais. Imaginez que situation vernaculaire, nommée ou non. J'aurais très bien pu, je sais pas, avoir une situation où on reçoit une carte postale de La Chaux-de-Fonds et j'avais rempli la condition. Ouais. Donc,
ça laisse
c'est une
liberté
d'écriture extraordinaire.
Ouais. Alors je le disais tout à l'heure, Yves Robert, depuis 2006, ce sont les éditions D'autre part qui publient cette collection Lieu et Temps. Pascal Rebetet est le fondateur des éditions D'autre part. Je l'ai donc joint par téléphone alors qu'il était en plein tournage pour la télévision, ce qui explique peut-être la mauvaise qualité du son. J'avais envie de connaître son sentiment d'éditeur face à votre récit. Et lorsque je lui ai demandé comment votre nom s'était imposé parmi les écrivains neuchâtelois, voici ce qu'il m'a répondu.
Alors, il faudrait que je retrouve absolument le procès-verbal de la séance, où cela se fait de manière très formelle. Il est bien possible que j'ai cité son nom, le connaissant par ailleurs du côté du théâtre et sachant ce qu'il avait fait et ce qu'il avait réalisé pour l'écriture théâtrale proprement dite. Je ne savais pas, et à ma connaissance, je n'avais jamais lu de texte en prose de lui, et donc je me disais que c'était peut-être une incitation, une sollicitation à le provoquer aussi. Je crois que d'ailleurs, ça a très très bien fonctionné, qu'il concerne. Donc voilà quelqu'un qui me paraissait suffisamment lumineux pour écrire la ligne obscure.
C'est vrai qu'Yves Robert est avant tout un homme de théâtre. Il a écrit essentiellement des textes destinés à la scène. Est-ce qu'il vous semble justement que cela se ressent dans la ligne obscure ?
Oui, ça se ressent. Oui, alors très clairement, il y a une manière d'envoyer des textes qui parfois peuvent ressembler à du monologue, à une manière d'asséner les phrases aussi, comme si elles devaient être dites parfois. C'est pas sur l'ensemble du récit, mais effectivement, il y a le sens théâtral qui est avant tout le sens de la bouche, quoi, le sens du texte à dire.
Est-ce que vous avez accompagné l'auteur pendant la phase d'écriture ? Vous en avez parlé ensemble, avant, pendant, après ?
Avant, pas du tout. Pendant la première phase d'écriture, pas du tout non plus. Puis ensuite, il a tenu, et ça c'était aussi intéressant, chaque auteur décide de ce qu'il veut faire, mais à nous donner très rapidement des premières épreuves comme ça de ce qu'il écrivait. On a chaque fois causé, y compris avec la présidente de l'association littéraire neuchâteloise, Odile Cornu. Je crois qu'on travaillait un petit peu en trio, où on lui renvoyait des avis sur les différentes phases d'écriture. Donc ça a été un boulot assez progressif, intéressant aussi à faire, avec des retours, des renvois, puis nous renvoyer un autre texte. Mmh. Donc on a pu le lire et le relire passablement.
Oui, la ligne obscure a quelque chose d'énigmatique. Je pense que ça ne vous a pas échappé, Pascal Rebetet. Le temps s'y contracte, les images et les réminiscences se confondent au point que parfois une certaine confusion s'instaure. Oui. Est-ce que vous êtes toujours parvenu à rester lucide à la lecture de ce texte ? Est-ce qu'il est toujours lumineux pour vous ?
Bien sûr que non. La lucidité, elle est aussi d'accepter certaines obscurités. Hein. La vie faite de jour et de nuit, et je pense qu'il y a effectivement des fois des choses qui entrent dans une sorte de pénombre, on peut le dire. C'est pas forcément très très facile de s'y retrouver. Mais le souci a été, et ça c'était le travail d'éditeur avec Jasmine Liardet, avec qui nous avons travaillé sur ce texte, c'était de ramener quand même à une narration qui arriverait à se suivre comme ça et à aller de fil en ligne, si je puis dire.
Donc il faut accepter de se perdre un peu dans les multiples strates qui composent le récit, la ligne obscure ?
Oui, moi je pense qu'il n'y a rien de négatif. Autant je cherche en général à favoriser, disons, un texte ou des textes ou une expression qui aille vers une grande lisibilité immédiate, autant là il y avait une espèce de touffe qui m'a plu et il faut le dire, un peu un lyrisme poétique comme ça qui partait puis qui n'a pas a priori à être retenu, quoi. Donc ça fonctionne plus, davantage parfois dans la musique que dans le sens particulier.
C'est vrai qu'il est dense et parfois obscur, votre récit, la ligne obscure, Yves Robert. Donc nous allons tâcher aujourd'hui dans nos interlignes d'en faire émerger les éclats de lumière. D'abord, est-ce que vous l'avez écrit pour le dire, comme le suggère Pascal Rebetet, votre éditeur ?
Bien sûr, je crois que c'est le... Déjà, c'est simplement c'est ma méthode de travail au départ. C'est-à-dire que je suis une personne qui écrit en parlant. Alors, je suis derrière mon ordinateur, j'écris une phrase, je reviens en arrière, je la dis, je me lève.
Vous la proférez.
Je reviens.
Vous avez un gueuloir chez vous ?
J'ai une sorte de gueuloir où je ne gueule pas vraiment parce que. C'est pas le genre de la maison, on va dire. Mais non, j'ai vraiment du. Ça fait partie de mon jeu d'écriture d'être toujours sur l'oralité. C'est vraiment quelque chose pour moi d'extrêmement important. C'est aussi quelque chose, et Pascal Rebeutet le laisse entendre dans son interview, je travaille par strates successives d'écriture aussi.
Des strates qu'on retrouve dans ce texte.
Qu'on retrouve dans ce texte. Mais je dirais aussi en termes de version.
Ouais.
Ce texte a été écrit, je pense, de souvenir comme ça, 8 fois. Donc il a diminué, il a maigri, tout d'un coup des choses ont apparu, tout d'un coup il a pris un peu de gras à d'autres endroits, etc. Je considère que les choses évoluent. Et là on est peut-être de nouveau dans cette logique propre du théâtre et propre de la répétition, c'est-à-dire ce travail en commun.
Donc c'est un travail éditorial que vous avez réalisé avec l'éditeur et qui vous a été précieux, cet échange.
L'échange avec l'éditeur est précieux, mais l'échange a été aussi extrêmement précieux avec un ami qui est Philippe Renaud, avec qui a suivi vraiment le processus d'écriture de A à Z, c'est-à-dire c'est déjà tout simplement c'est mon voisin au bureau. Donc j'ai la chance extraordinaire d'avoir Philippe Renaud lui-même. Ouais. Auteur qui a enseigné la littérature romande en Suisse romande, qui a publié dernièrement un livre de nouvelles qui s'appelle « Sept histoires à rebrousse-poil ». Et Philippe était vraiment une personne avec qui j'ai pu dialoguer en permanence. C'est une personne aussi qui, je dirais, a un sens d'une pédagogie bienveillante mais inflexible. Et donc entre Philippe Renaud, entre d'autres personnes qui étaient aussi lecteurs occasionnels, soit de versions complètes, soit de séquences, tout ce travail qui est proche du théâtre où on utilise l'énergie et le regard de multiples personnes,
ouais.
On est arrivé à fabriquer un livre comme on fabrique une pièce de théâtre.
Vous avez remarqué, Yves Robert, ça fait un moment qu'on parle des coulisses et du processus de création, ce qu'en cinéma, justement, on appelle peut-être le making of d'un livre, en l'occurrence d'un livre, justement. Alors, il serait temps quand même d'en venir au contenu de cette ligne obscure, dire à nos auditeurs qu'on y trouve deux registres distincts. D'une part, le récit d'un narrateur qui évoque l'errance d'un homme nommé Charles B. Et puis, Charles B. aussi a laissé un carnet avant de disparaître, dans lequel il évoque sa propre déchéance, sa disparition, sa dissolution dans la nature. Et ce sont des fragments de ces carnets qui viennent chaque fois conclure les chapitres inscrits en caractère italique. Donc, deux registres de narration, un narrateur et presque un diariste, quelqu'un qui laisse des traces écrites. Quel lien y a-t-il entre ces deux narrateurs, ces deux écrivains?
Ce serait peut-être à un autre que moi de trouver le lien. Je dirais, je reviens toujours à l'artisanat. Moi, je dirais la première chose qui me vient à l'esprit par rapport à ce lien. Enfin, que raconte premièrement ce livre pour moi? Ce livre, il pose la question de comment est-ce qu'on écrit un roman? Qu'est-ce que c'est écrire? Comment est-ce qu'on exprime une pensée? Comment est-ce qu'on l'accouche sur le papier? Et c'est la difficulté à laquelle j'étais confronté avec cette commande, étant novice. Donc, j'ai très basiquement, très factuellement mis en place un double dans l'histoire avec lequel je pourrais dialoguer. Le carnet rouge, qui est la pensée intime du protagoniste, me permettait à moi, narrateur de fait, mais je suis pas sûr que je sois le narrateur de fiction, c'est encore une autre question, me permettait à moi de recevoir des impressions, de recevoir des émotions de la part de ce personnage-là, et de reconstruire son parcours et ses passages. Je dirais, j'ai mis en place un système d'écho où l'un se répond de l'un à l'autre, système d'écho qui me permettait à moi, à ce moment-là, auteur, On va dire version avion à wax de surveillance qui surveille un peu tout ce qui se met en place.
Auteur sans H. Hein? Non, parce que vous faites un signe de dérivation lorsque vous dites auteur. Mais non, vous êtes un auteur.
Je suis un auteur, mais il y a peut-être le H manque peut-être parfois.
Un auteur qui prend de la hauteur.
Donc, essayer de prendre ces choses, je dirais de survoler ces différents échos. Et quelque part, pour moi, ce roman, c'est apprendre à écrire. Et apprendre à écrire en fonction de ces échos-là.
Voilà une première clé de lecture, Yves Robert. Merci de nous l'avoir livré. Donc il est temps d'entrer dans ce récit de manière très concrète en écoutant les premières pages de La Ligne Obscure. Et comme vous êtes un homme de théâtre, je vous ai demandé de choisir vous-même le nom, enfin le comédien qui interpréterait et qui porterait par sa voix votre texte. Vous avez choisi Claude Thébert, vous avez bien fait. Claude Thébert est un sacré lecteur et on le reçoit pour la première fois aujourd'hui entre les lignes. Bonjour Claude.
Bonjour.
Donc voici les premières pages de La Ligne Obscure que vous allez nous donner en lecture. On vous écoute, Claude Thébert.
Tout le monde avait été surpris par l'étrange comportement de Charles B. Mais personne n'avait rien osé dire, soit par lâcheté, désintérêt, hypocrisie ou par un pseudo-respect bien pratique à l'égard de sa femme. Ce n'est que plus tard que nous avons appris qu'il l'avait frappée avant de disparaître. Il lui avait brisé la pommette avec une violence inouïe. Ceux qui étaient au courant recommandèrent à Gisèle de porter plainte, ce qu'elle ne fit jamais. Nous avons tous pensé à un coup de folie. Et nous avons estimé qu'il reviendrait la queue entre les jambes, qu'il demanderait pardon et qu'elle le reprendrait. Le temps a passé. Il n'est jamais revenu et sa photographie a rejoint le registre des personnes disparues. Une curieuse photographie sur laquelle il n'a pas l'air heureux, ni malheureux d'ailleurs. Il est là, les bras ballants, avec un sourire de guignol sur les lèvres. Charles B. n'a jamais été beau, et par conséquent, il n'a jamais été photogénique. Un jour, un ami m'avertit que les recherches à propos de Charles B. étaient définitivement interrompues. Peu de temps auparavant, une compression du personnel m'avait éjecté de mon travail. Depuis, je battais la semelle et lisais attentivement les offres d'emploi, avec l'espoir d'y dénicher une place à ma mesure. Je n'étais pas le seul compressé, et il y avait peu de postes sur le marché pour beaucoup d'estourbis. La disparition de Charles B. devint une énigme qui ne me concernait plus. Les lettres de refus s'empilaient sur mon bureau et suivaient le même et unique modèle exprimant un regret sincère doublé d'une inévitable formule souhaitant bonne chance. Au vu de mon âge, il devint évident que je resterais sur le bas-côté. Je fréquentais alors assidûment un bistrot où je fumais d'odieuses cigarettes sans filtre. Je faisais moins attention à moi et j'étais parfois franchement sale. J'avais l'aspect farouche du battu de la vie standard, dont les traits de visage portent en eux une noblesse philosophique. Je peux le dire sans forfanterie, parce que ce burinage est vraiment involontaire. Ceux qui, comme moi, sont passés par cet état savent à quel point nous souhaiterions n'avoir jamais été marqués. Un jour, il pleuvait. La vie derrière la fenêtre de l'établissement restait désespérément grise. J'étais encore plus déprimé que d'habitude. Je m'ennuyais dans un éclairage néon allumé en permanence face à une grande photographie représentant un univers de béton et de petites voitures. La grisaille de l'extérieur trouvait son écho à l'intérieur et je ne savais plus à quel monde j'appartenais. La porte s'ouvrit et quelques personnes en costume sombre entrèrent. Ils revenaient d'une cérémonie funèbre durant laquelle ils avaient répandu les cendres du défunt. Parmi eux, une femme de mes relations demanda si je connaissais Charles B., le mari disparu de Gisèle. Elle n'écouta pas ma réponse et expliqua que les cendres étaient celles de son père, un vieux médecin très populaire parmi les ouvriers de la ville. Je lui transmis mes condoléances. Elle était encore dans la stupeur qui est la première étape du deuil. Elle ne cherchait qu'à résoudre des problèmes pratiques. En vidant le cabinet, elle avait trouvé un étrange carnet rouge dont elle ne savait que faire. Elle me le remit. Il était de la main de Charles B. C'est à partir de ce carnet que j'ai pu reconstituer des fragments de sa vie après sa disparition. J'ai retrouvé certaines personnes qu'il avait connues lors de son voyage vers l'obscurité, qui avaient partagé sa folie, ou parfois plus simplement l'avaient observée. J'ai utilisé ce carnet, du moins ce qui en était lisible ou compréhensible, pour suivre sa trace tout au long de ce qu'il nomme la ligne obscure. Le reste, les autres me l'ont raconté, et ce qui n'était pas raconté, je l'ai imaginé. Ce que j'ai consigné ici n'est pas un témoignage, ni un patchwork, ni une affabulation. Je crois qu'il faut prendre cela comme une carte, une de ces vieilles cartes de navigation trouées, incomplètes, et qui ne conduisent que vers un seul endroit, la Terra Imaginata. Je regarde autour de moi et je ne vois rien. Je ne vois rien, comme si la lumière s'était évaporée d'entre les étoiles et m'avait laissé le cœur ouvert. Comme si j'étais sur une table, préparé, la poitrine tenue par les écarteurs et mon cœur prêt à être arraché et remis dans la poitrine d'un autre. D'un autre que je ne connais pas et deviendrai moi. Parce qu'il aurait mon cœur et moi je deviendrai un cadavre qui sèche, un cadavre sans larmes parce que je n'arriverai pas à pleurer sur ma propre mort. Parce que je ne sais pas si je sers encore à quelque chose. Parce que je ne sais pas si je suis vivant. Et la douleur qui me vrille les entrailles est incapable de me faire savoir si j'ai une âme. De plus en plus, il m'apparaît que la vie n'est qu'une ligne obscure.
Entre les lignes, avec vous, Yves Robert, nous évoquons aujourd'hui votre récit paru aux éditions D'autre part, La ligne obscure. Au cœur de ce texte, on trouve donc un certain Charles B., un homme frappé par la maladie qui n'a plus que quelques mois à vivre, lui annonce son médecin. Charles B. choisit alors de se retirer du monde pour suivre ce qu'il appelle sa ligne obscure jusqu'à sa dissolution complète. Et la seule trace qu'il laisse de lui, c'est donc ce petit carnet rouge auquel a accès le narrateur du récit, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est que peut-être ce narrateur était chargé à l'époque de l'enquête sur la disparition de Charles B. Et on comprend dans ces premières pages qu'on a entendues là par Claude Thébert que le narrateur tente de reconstituer les dernières semaines de vie de Charles B. en se basant sur le carnet rouge que celui-ci a laissé et en comblant les nombreuses lacunes laissées par sa propre enquête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la première prise de parole de Charles B., donc ces parties écrites en italique dans votre roman, Charles B. évoque un transfert de personnalité vers un autre qu'il ne connaît pas. Peut-être parce que raconter l'histoire de quelqu'un, c'est s'approprier sa personnalité, c'est accueillir le cœur d'un autre dans sa propre poitrine. C'est comme ça que je me suis raconté l'histoire, personnellement.
Mais je crois que vous avez raison. C'est aussi comme ça que je me suis raconté cette histoire-là. On revient toujours à cette question d'apprendre à écrire, l'artisanat d'écrire. Pour moi, c'est
puisque c'est la, pour moi la clé de ce roman-là, c'est comment on écrit une histoire et comment l'écriture prend sa place, finalement, dans ce premier chapitre, et peut-être de manière impressionniste dans la première version du Carnet Rouge, c'est toute mon interrogation d'auteur de théâtre qui doit s'approprier un personnage et le faire exister dans un roman.
Et transférer son cœur dans sa propre poitrine, peut-être.
Et transférer, effectivement, dans le cœur d'un autre, dans le corps d'un autre, une partie de son âme. C'est ça, finalement, l'enjeu de raconter une histoire, c'est peut-être arriver à transmettre dans le personnage ce que l'on est, tout en restant soi-même hors de ce personnage-là. Je dirais que c'est un peu de cette manière-là que je me comprends a posteriori.
Et que votre lecteur vous comprend aussi.
Et j'espère que le lecteur le comprenne dans ce sens-là.
Oui.
Juste une chose. Merci à Claude Thébert, c'était émouvant pour moi.
C'est la première fois que vous entendez ce texte
c'est la
dit
première
par
fois.
La voix d'un autre.
Exactement. Ouais. J'ai toujours entendu que ma voix et tout d'un coup, c'est un bon moment pour moi.
Il faut dire deux, trois mots aussi de ce personnage Charles B, qu'on apprend à connaître au fil de ses divagations, de ce qu'il a laissé dans ce fameux carnet rouge. On n'en sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il faisait partie de l'élite financière du pays. Il était ce qu'il appelle un conquérant. Il était marié à une fameuse Gisèle, qui est citée dans ce passage. Et surtout, il avait une admiration sans borne pour la musique du grand Jean-Sébastien Bach. Mais que vient faire Jean-Sébastien dans cette histoire?
Que vient
encore
faire
une clé de lecture,
Jean-Sébastien
peut-être
Bach dans cette histoire? Charles B, Charles Bovary, d'abord pour moi, c'était juste faire ce petit clin d'œil.
Charles, c'est vous.
Ce petit clin d'œil, ce petit mot. Que vient faire Bach? C'est un peu la faute. C'est un peu la faute à Gould quelque part. Il y a un petit peu cette histoire-là. Enfin, je dis la faute. Bach, pour moi, fait partie des choses éternelles en musique, des choses sur lesquelles j'ai eu la chance, je dirais dès mon adolescence, grâce à mon frère par ailleurs, j'ai eu la chance d'être confronté à l'univers de Bach, ou confronté c'est pas le bon mot, j'ai eu la chance de découvrir cet univers-là. Alors je suis pas un mélomane, je suis pas quelqu'un qui connaît la musique, je suis quelqu'un qui aime la musique.
Un amateur.
Je suis un amateur. Et j'ai vraiment, dès l'adolescence, eu cet accès à la musique de Bach. Et j'ai appris à la connaître, j'ai appris à la comprendre. Je dirais intuitivement, j'ai appris vraiment à l'aimer très profondément sur ce qui m'apparaît être son immense subtilité, son immense profondeur. Et je dirais l'ordre de ces strates, puisqu'on est sur un roman qui se veut à plusieurs strates. Quand j'écoute du Bach, je suis toujours surpris de découvrir à chaque écoute quelque chose de nouveau. C'est peut-être aussi un problème de mémoire, mais ça, on l'oublie. Donc c'est vraiment une musique qui me touche profondément. Et quand je viens en disant c'est la faute de Gould, je me souviens d'un reportage, sauf erreur, fait par Mont-Saint-Jean, où il parle de Gould qui travaille sur le Nord canadien et qui, quelque part, va faire au travers de son travail, de sa recherche sur le Nord canadien, va tisser un parallèle entre une recherche sur le Nord et la folie.
Et le Nord qui est très présent dans le récit de la ligne obscure.
Et le Nord est intégré dans le récit de manière systématique et à même droit, je dirais, à son chapitre, comme chapitre de la folie.
Et Bach revient de manière cyclique.
Et Bach revient
de la réminiscence musicale.
Cyclique, etc. Ouais.
Il faudrait dire aussi quelques mots, Yves Robert, de la maladie qui condamne ce Charles B, peut-être Charles Bovary. Cette maladie n'est jamais nommée. On imagine qu'il s'agit d'une maladie dégénérative, plutôt foudroyante, puisque Le médecin de ce personnage lui annonce qu'il n'a plus que quelques semaines à vivre. Ce médecin qui se charge d'examiner Charles B. est un peu particulier et franc du collier. Il ne s'embarrasse pas vraiment de précautions lorsqu'il apprend à son patient que celui-ci n'a plus que quelques mois à vivre. Voici exactement dans le texte et à la lettre ce qu'il lui annonce.
Quelque chose s'est déréglé en toi. Une brique de ton esprit a bougé, pris une mauvaise place. Elle fait un coin, une arête à laquelle tu t'accroches. Tes oreilles, tes yeux, ton intelligence cherchent. Tu deviens un animal, tu es aux aguets. Tu as perdu le sommeil, tu ne le retrouveras pas. Ton corps se trompe et te tue. Les jours seront des nuits, les nuits seront des jours. Tout sera égal. Les toxines s'accumuleront, tes muscles ne se reposeront jamais, tu perdras le contrôle de ton esprit, la douleur sera lancinante et permanente sans être forte. Les médicaments sont inutiles, il n'existe rien pour évacuer, ni l'alcool ni la drogue ne peuvent avoir d'effet. Tu seras une capsule spatiale perdue dans le vide intersidéral. Les choses que tu connais s'éloigneront de toi, tu ne pourras rien faire. C'est un mouvement qui te projette vers l'obscurité. Il n'y a rien à quoi s'accrocher. Tu comprendras l'impuissance.
Eh bien voilà un diagnostic plutôt brutal, Yves Robert. Je retiens de cette sentence, cette phrase, « Tu deviens un animal, tu es aux aguets ». Cette sentence est primordiale parce que l'itinéraire que va parcourir Charles B. le conduira vers sa part animale en le dépouillant peu à peu de son humanité. Et pourtant, l'humanité est toujours tapie au fond de l'animal, peut-être.
Bon, là, sur la notion de... d'être aux aguets, très honnêtement, au départ, c'est vraiment juste la volonté de définir cette maladie, c'est-à-dire de définir de quelle manière le sommeil est perdu et ne peut plus être récupéré, c'est-à-dire de quelle manière une personne va se dégrader par absence de sommeil. Et le mettre aux aguets, c'était aussi permettre à ce personnage-là, à partir de ce temps de la révélation, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans le récit, avant le temps de la révélation, il est déjà aux aguets. De fait, la maladie le touche avant l'annonce médicale qui confirme son état. Il en a la conscience, il en a la préscience. Ça devient une confirmation. Mais le mettre aux aguets, c'était permettre à ce personnage-là d'avoir le regard le plus acéré possible sur le monde qu'il va traverser, sur les gens qu'il va rencontrer. Dans le roman, à un moment donné, il fait une comparaison sur ce qu'il voit. Il dit qu'il a l'impression de voir les gens comme s'il les voyait dans ces petits blocs de plastique transparent dans lesquels on peut voir des insectes pris dedans pour les observer.
Il dit justement qu'il les dissèque.
Et justement, il est dans ce moment où son temps, paradoxalement en étant compté, devient un temps extrêmement long. Et sur cette lenteur de l'écoulement rapide du temps, sur cette lenteur-là, il a le temps de vraiment regarder le monde qui l'entoure.
Et la maladie provoque chez lui une contraction du temps, la notion du temps devient très relative, et le dote d'une formidable lucidité. Cette lucidité n'est pas facile à vivre au quotidien, évidemment.
Ah,
la lucidité, on revient dans l'histoire de la lumière et des zones d'ombre. Hein.
La question de la lucidité est quelque chose qui m'obsède fortement. C'est-à-dire que avoir un regard chargé de diplomatie sur le monde, c'est quelque part se couper de la réalité du monde. Donc avoir la lucidité et la dureté et le regard acéré, quand on parle par exemple, soit que cela soit de rencontres de personnes ou que cela soit les rencontres, on va dire avec la mémoire historique, pour moi se priver de lucidité est une erreur. Le médecin est dans cette même logique-là. Dire à son patient avec diplomatie qu'il va mourir, c'est faire perdre du temps à son patient. le dire directement, tu vas mourir et ta maladie c'est ça, il va se passer ça, ça et ça. Il n'y a pas de perte de temps, le médecin met tout de suite son patient dans la réalité qu'il devra affronter. Et je crois que ce personnage, il est aux aguets, il est dans la lucidité. Mettre du temps dans une annonce, ou mettre du temps ou de la diplomatie dans une expression historique ou de mémoire, je crois que c'est priver ces moments-là de leur force. En les privant de leur force, c'est peut-être aussi le risque. La diplomatie prend le risque d'introduire de la morale. Et j'avais pas envie de ça.
Il est dit aussi, Yves Robert, dans les premières pages de La Ligne Obscure, que lorsque Charles B. apprend cette inéluctable fin qui est la sienne, une fin proche, il va devenir un vrai marcheur. Le terme est de vous, l'auteur. C'est-à-dire quelqu'un qui renie toute attache sociale, amicale, amoureuse. Il va entrer dans quelque chose de totalement ascétique. Il y a une rupture chez lui, une volonté de rupture qui fait partie d'un programme de fin de vie.
Il y a une phrase qu'il dit, sauf erreur, se savoir mourir rend égoïste. Ouais. Je crois que ça participe de ce principe-là. À un moment donné, le médecin lui révèle l'inéluctable proche de sa fin de vie. Et à partir de là, la seule chose qu'il a à faire, c'est d'entreprendre son parcours à lui. C'est pas du désintérêt ou de la haine ou autre par rapport au monde ou par rapport aux gens qui l'entourent. Je crois que c'est cette nécessité égoïste d'une personne qui va mourir de se recentrer sur lui-même. Je crois que c'est juste cela.
Et ce besoin de rupture est régulièrement exprimé par ce personnage, Charles B., dans le carnet qu'il a laissé, ce fameux carnet rouge, notamment dans l'un des premiers monologues qui figure dans votre récit. Claude Thébert nous fait la lecture de ce passage.
À partir de quel moment les choses se brisent? Est-ce que cela se passe en silence? Qu'est-ce qui fait mal? C'est une série de questions qui tournent dans ma tête et je la regarde avec le même hypnotisme que je subis à la laverie automatique quand j'observe le linge battu dans le tambour d'une machine. Pleurer est une chose qui m'est inconnue. Parfois l'émotion me submerge, mais mes yeux restent arides. Je crois que je suis un homme de granit. Enfant, on m'a fait prendre un bain de pierre. On a coulé du gravier dans mon cœur et posé des plaques de marbre sur mon âme. J'ai toujours pensé que cette indifférence au monde ne nuisait pas à mon humanité et que j'avais par cet étrange don une lucidité exceptionnelle. J'envisage m'être trompé. J'ai vécu avec la tête et les entrailles dans le sable, sans voir que les horizons étaient déserts, que mes gestes de tendresse étaient des subterfuges et que mes actes avaient la force de la boue. Est-ce que j'ai eu une existence utile? Si au moins je savais à quoi se mesure l'utilité. Je m'étonne quand quelqu'un me remercie pour une chose a priori naturelle. Je suis surpris que les autres accordent de l'importance là où je n'en vois aucune. Je me croyais unique, mais je suis une répétition, une image tremblée projetée par un vieux projecteur parmi des milliards d'autres images tremblées. Dans la cascade des filiations, je suis un simple rebond du torrent avec un peu d'écume et de trouble dans l'eau. J'aurai deux morts, celle du corps, puis celle définitive quand tous ceux qui m'ont connu auront cessé d'être ou de penser. Les questions tournent et retournent. Mon esprit se remplit de mousse. À partir de quel moment les choses se brisent? Est-ce que cela se passe en silence? Qu'est-ce qui fait mal? Je ne veux pas subir la présence de ma famille. Elle ne doit rien savoir de ma déchéance. J'ai peur que la femme que j'aime tienne ma main avec une compassion qui m'égratigne et infecte ma carapace. Que je lise dans ses yeux un amour au-delà de la raison. un amour qui lui enlève son avenir et la liberté. Je ne veux pas de ça. Je veux être un loup blessé, m'éloigner de la meute, choisir un arpent de fougère sur une ligne de crête et m'évaporer, disparaître loin du brouhaha agaçant des lamentations.
Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
Pour faire suite à votre texte, Yves Robert, j'ai choisi le dernier couplet de cette chanson d'amour et de mort que Moluji interprétait au début des années 1950 et qui a fait son succès, sa gloire. Chanson aussi légère qu'une fleur d'été, aussi dramatique qu'un coup de revolver en plein cœur. Les paroles finales de Comme un petit coquelicot sont retranscrites dans un chapitre de La ligne obscure, le récit dont vous êtes l'auteur que nous évoquons aujourd'hui entre les lignes. Alors on a parlé de Bach tout à l'heure, pourquoi Moluji s'invite dans ce récit?
Moluji s'invite par, je dirais d'abord par sa légèreté. Il y a quelque chose de, comment on dit. Remettons Moluji dans le contexte de ce roman. Il est dans un chapitre qui est un chapitre central, qui est à mon avis le moment où les choses vont basculer définitivement. C'est une sorte de, on va dire, d'axe de la toupie où les choses sont paisibles, où le marcheur a déjà effectué une grande partie de son parcours et il est recueilli par une femme dans un havre qui va, je dirais, symboliquement le laver, va mettre un cataplasme d'or sur une blessure de son cœur.
Il va faire preuve d'une totale empathie à son égard, lui qui est déjà en voie de clochardisation.
Exactement. Hein. Et elle va vraiment en prendre soin avec une humanité absolument magnifique. Elle va lui permettre de peut-être entrer dans un moment, rédemption, le mot est trop fort, mais un moment paisible, un moment apaisé. En écrivant ce chapitre, j'essayais de voir quelle impression musicale je pourrais donner à ce chapitre en ayant quelque part de la douceur, de la tendresse, en ayant cette fragilité du coquelicot, mais toujours en restant dans l'idée de la mort, toujours en restant dans l'idée la mort est inscrite de manière inéluctable dans ce roman. Le personnage va le vivre et je reviens à cette notion, ce savoir mourir rend égoïste, dans cette notion de son recentrage sur lui-même. Et Moluji est venu, je dirais, naturellement.
Il s'est imposé à lui.
Il s'est imposé. Mmh. Et d'autant plus, il permet un échange qui, pour ma part, me paraît proche du théâtre, puisque nous entrons dans, sauf erreur, un des seuls moments dans le roman, à part la séance du médecin, où la situation est dialoguée. Mais jouer sur les paroles de la chanson de Moluji et l'intégrer dans des répliques que elle ou lui se font avec énormément de tendresse et de délicatesse, c'était juste un plaisir.
On avait prévenu nos auditeurs, Yves Robert, dans votre livre, le temps est contracté. J'ai l'impression que nous avons subi aussi une contraction du temps. Cette heure a passé très vite en votre compagnie. Une dernière question peut-être à vous poser. Arrivé à la fin de cette sombre ligne d'écriture, vous êtes-vous, vous-même, en tant qu'auteur, en tant qu'individu, tout simplement retrouvé changé, modifié, augmenté?
Inévitablement, mais peut-être il est bien de mettre quelques strates là-dessus. Ma personnalité n'a pas changé, je ne me promène pas tout nu dans les bois et je ne mange pas des castors.
C'est pas tout à fait ce que je voulais dire.
je dirais, je crois que j'ai changé en termes d'écriture. Ouais. Je crois qu'effectivement, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme, on va dire, une écriture initiatique, apprendre à écrire un roman. Et arrivé à la fin de ce travail-là, je sais que je n'écris plus comme avant. Je sais que j'ai encore gommé de la morale et de l'éthique. Et que par conséquent, je n'ai envie de rester que sur l'histoire.
Une petite ligne obscure comme une ligne d'écriture, telle est la dernière phrase de votre roman Yves Robert. Il est intitulé « La ligne obscure », il apparaît aux éditions d'autre part dans la collection Lieu et Temps. Merci d'être descendu de vos montagnes neuchâteloises pour nous en parler. Je vous souhaite de passer un bel après-midi.
Merci beaucoup.
Au revoir. Au sommaire de Entre les lignes, il y avait aujourd'hui Claude Thébert pour les lectures. D'ailleurs, il faut que je signale à nos auditeurs que Claude Thébert lira La ligne obscure, en tout cas des extraits, à la librairie Le Parnasse. Ce sera le 28 mai, c'est bien ça, Claude?
Juin.
Oui, le 28 mai, ouais. C'est demain, le 28 juin, pardon. Sacha Unger, merci pour sa diffusion en régie. Madeleine Techer était notre assistante de production. Une production signée Jean-Marie Félix, à retrouver sur notre page internet rts.ch/entre-les-lignes. Je vous retrouve volontiers demain, entre 11h et midi, avec Annick Chouin. Je recevrai Gisèle Fournier, auteur d'un roman paru au Mercure de France. T'engages. Il est midi sur Espace 2.